La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Esprit libre avec aujourd'hui, comme chaque lundi, le philosophe Luc Ferry. Bonjour Luc.
Bonjour David.
Luc, vous m'avez soufflé un thème de conversation et je le trouve excellent. France 2 diffuse à partir de ce soir une série en 4 épisodes. Oui. 2 épisodes ce soir et 2 épisodes lundi prochain. Inspiré par la peste de Camus, le roman sorti en 1947 qui raconte le quotidien des habitants de la ville d'Oran confrontés à l'épidémie de peste. Pour les besoins de la télé, l'action de la série se déroule en 2030. Dans une ville du Sud. Et c'est de la peste de Camus et de cette série dont vous avez voulu nous parler aujourd'hui. Pourquoi ?
Bah d'abord parce que Georges-Marc Benhamou a eu une très très bonne idée, c'est de trahir pour être fidèle, si je puis dire, au livre de Camus. C'est-à-dire que ça se passe pas il y a 100 ans, ça se passe en 2030, ça se passe pas à Oran, ça se passe dans une ville du Sud de la France. Mais au fond... C'est une très bonne idée d'actualiser, et même plus que d'actualiser, puisque ça se passe dans le futur, le roman de Camus, parce que c'est un roman qui appartient à cette catégorie de livres de moralistes. Au fond, Camus, pour moi, n'est pas un grand philosophe, mais c'est un grand moraliste, c'est pas la même chose. Mais c'est un livre qui commence, si vous voyez ce que je veux dire, par une équation à résoudre. Comme par exemple la moustache d'Emmanuel Carrère. Hein, un homme qui a une moustache fournie depuis toujours décide de la raser, personne ne s'en aperçoit, qu'est-ce qui se passe ? Sa femme le voit pas. La même manière, là, vous avez une catastrophe qui s'abat sur une ville, la peste étant, chez Camus, une métaphore de l'occupation allemande, évidemment. Et puis, comment les gens vont réagir? Et là, vous regardez comme un spécialiste des rats ou des animaux, vous regardez comment les humains réagissent, comme un entomologiste, voilà. Il y a ceux qui vont être engourdis par la peur, il y a ceux qui vont en profiter pour faire de l'argent, il y a ceux qui vont résister et aider les autres, il y a ceux qui vont collaborer, etc. Et donc, vous avez une équation de départ, et après, le moraliste regarde comment les humains vont agir. Et c'est au fond ça que Georges-Marc Benhamou a voulu transposer dans une adaptation qui n'est pas une adaptation exacte, si je puis dire, parce que tout est changé.
C'est une dystopie. C'est presque de la science-fiction.
C'est presque de la science-fiction, mais en même temps, c'est tout à fait l'esprit de Camus. D'ailleurs, il y a beaucoup de phrases de Camus, puisqu'il y a une voix off. Moi, j'ai regardé, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le voir avant que ça sorte ce soir. Ouais. Mais c'est, évidemment, on est tout à fait, c'est plus fidèle à Camus qu'une adaptation bête, voilà. Mais c'est très intelligent comme idée. Et évidemment, Camus est un homme... Bon, moi, je considère pas Camus comme un philosophe. Alors, je sais que je vais me faire hurler, mais je considère comme un moraliste au sens français du terme. C'est un moraliste, c'est tradition de Montaigne, de La Bruyère, de La Rochefoucauld, voilà. Moraliste, c'est pas la même... Il n'y a pas un système philosophique de Camus.
Alors, justement, voilà. on va y venir à la philosophie de ouais, Camus, parce que ouais, certains le considèrent comme ouais, un philosophe,
oui, bien sûr,
en
ouais,
raison de son opposition avec Jean-Paul Sartre, mais je veux rester sur la série
oui,
quand même,
oui,
parce que
ouais,
Georges-Marc Benhamou, qui est le scénariste et le producteur,
oui,
a eu la bonne idée de pas faire une dystopie sur le retour d'un Covid supplémentaire ou d'un variant tueur du Covid.
Oui.
Il a décidé d'utiliser ce qu'on avait observé pendant le Covid, et ce qu'on observe aussi dans la peste de Camus,
oui,
mais avec une peste d'un genre nouveau,
voilà,
un variant de la peste qui est oui, vraiment très létal, et ça apporte beaucoup à la série.
Oui, bien sûr, parce que c'est la mort est omniprésente, ce qui fait qu'on est obligé, enfin les humains sont obligés de se situer par rapport à cette horreur qu'est la mort, et qui contraste avec une petite ville du sud au bord de mer, où d'ailleurs les premières images, on voit des jeunes filles à moitié à poil sur la plage, et donc il y a un contraste évident entre ce bonheur qu'on ressent sur la plage au soleil dans le sud pendant les vacances, et puis cette horreur d'une peste absolument redoutable, donc de la mort qui va s'abattre sur cette petite ville qui va être fermée, qui va être comme dans la peste de Camus, voilà. Et donc, encore une fois, c'est un roman équation. Il y avait cette équation de départ avec un scénario de départ, puis après on observe ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on parle de roman philosophique. Marcel Aimé adorait ça. Enfin, il y a un livre de Marcel Aimé que j'adore absolument, qui s'appelle La belle image. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous conseille, parce que c'est absolument formidable. C'est d'ailleurs un peu ce qui a inspiré la moustache d'Emmanuel Carrère, où c'est un homme d'une cinquantaine d'années, un peu bedonnant et pas beau gosse du tout, qui va toucher un mandat à la poste, et la dame de la poste refuse de le servir, de lui rendre son argent, parce que il a d'un seul coup 30 ans, il est super beau gosse, et il va être obligé de reconquérir sa femme, de reconquérir son entreprise, son travail, de reconquérir sa vie, parce que personne ne le reconnaît. Et donc c'est des romans où vous avez une équation de départ, et puis ensuite le scénario se déroule, si je puis dire. Et ça permet permet de faire un roman philosophique. Mais en fait, c'est pas de la philosophie, c'est un roman moraliste, encore une fois, au sens français du terme, parce qu'il y a une grande tradition des moralistes français.
Je m'adresse à l'ancien ministre de l'Éducation nationale de Jacques Chirac. Pourquoi La Peste fait partie des romans qui, traditionnellement, oui. Ont fait l'objet de cours de français, ont été au programme du bac français. Pourquoi on étudiait La Peste, et j'imagine qu'on l'étudie encore,
oui.
Pourquoi on étudiait La Peste de Camus pendant les études?
À l'étranger aussi, on étudiait...
Oui.
Bah, d'abord parce qu'il a quand même été prix Nobel de littérature. Donc quand vous regardez même le Lagarde et Michard ou le Castex et Surer, donc les livres de... les manuels scolaires de littérature de notre enfance, on y trouvera La Peste de Camus. C'est canonique, si je puis dire. Et c'est vrai que Camus était... bon, le débat avec Sartre...
On va y venir.
Voilà. Il représentait ce moment de la littérature qu'on appelle la littérature philosophique. Donc que ce soit chez Sartre, que ce soit même d'une certaine manière chez Malraux, chez Camus, évidemment, on a cette littérature philosophique. C'est pour ça que j'insiste sur l'équation de départ. Et après, on observe ce qui se passe. Bon, en moraliste, on regarde comment les humains réagissent, en entomologiste, d'une certaine manière, comment ils réagissent. Et donc, cette littérature philosophique, elle a ses lettres de noblesse dans cette période, avec évidemment ces deux grands auteurs que sont Sartre et Camus.
Si on devait résumer, même si vous dites c'est un écrivain moral mais pas un écrivain philosophe, si on devait résumer la philosophie qu'on a prêtée à Camus,
l'absurde.
C'est l'absurde.
Oui, c'est l'absurde, c'est Sisyphe. Voilà, c'est le mythe de Sisyphe. Donc cette idée que la vie n'a pas de sens. Voilà. Alors évidemment, là il y a un thème philosophique majeur. La vie n'a pas de sens. La vie est absurde. L'idée de sens de la vie est une idée qui n'a pas de sens. Il y a du sens dans la vie, mais il n'y a pas du sens de la vie. En fait, si vous y réfléchissez, on ne peut parler de sens de la vie que si on se place de l'extérieur de la vie, c'est-à-dire dans une perspective religieuse. Et là, évidemment, on a affaire à un athéisme pour lequel la vie est absurde au sens où, oui, il y a du sens dans la vie, mais pas de la vie, parce que, encore une fois, pour parler du sens de la vie, il faudrait se situer à l'extérieur de la vie, donc dans une perspective religieuse. Donc on a affaire à un existentialisme athée comme celui de Sartre. Alors après, ce qui va faire une très grande divergence entre Camus et les grands intellectuels de la période, c'est que Camus sera jamais stalinien, contrairement à Sartre.
Et avec un point de départ qui est la sortie en 1951 de L'Homme révolté,
oui.
Et là, il se passe quelque chose qui a une portée jusqu'à nos jours. Il y a la querelle philosophique entre les deux hommes.
Oui. Politique aussi.
Enfin, politique, oui. Évidemment. Sartre et Camus sont très très copains, très amis avec Simone de Beauvoir, c'est Saint-Germain-des-Prés, etc.
Oui. Oui.
Camus sort L'Homme révolté, et là il se fait flinguer par Sartre et sa bande, mais un flingage qui va faire école, parce qu'aujourd'hui quand la gauche intellectuelle et philosophique décide de flinguer un intellectuel qui n'est pas de gauche, ce sont exactement les mêmes méthodes.
Mais vous avez déjà les deux gauches, d'une certaine manière, les deux gauches. Vous avez une gauche stalinienne maoïste que Sartre va incarner, hélas, pour lui, parce que Sartre est, lui, pour le coup, un très grand philosophe. Malgré tout, L'être et le néant, c'est un vrai livre de philo, contrairement à Camus, qui est un écrivain moraliste, mais il n'y a pas de système philosophique de Camus, c'est pas vrai. Mais de l'autre côté, vous avez la gauche, au fond, la gauche démocratique que Camus va incarner face à Sartre, et d'une certaine manière, Camus sera plus proche de Aron que de Sartre sur le plan politique, même si c'est un homme de gauche. Mais c'est la gauche démocratique, c'est la deuxième gauche, si je puis dire. C'est déjà un rocardien avant la lettre, si je puis dire. Voilà, et c'est ça qui, évidemment, va rendre Camus extraordinairement sympathique.
Parce
que
Camus...
trouve son meilleur livre, c'est son livre posthume, je trouve, de très très loin.
Le
premier homme, c'est
le
vraiment...
Premier homme.
Voilà, ça c'est un livre formidable. Il y a des erreurs dedans, ce qui est assez marrant, parce que c'est un livre posthume qui n'a pas été revu par lui, mais c'est son autobiographie, où il raconte sa maman qui est femme de ménage, sa vie... dans le Maghreb, c'est son instituteur, comment son instituteur va lui conseiller de devenir ce qu'il va devenir, c'est-à-dire un grand écrivain, et c'est un livre absolument formidable. Moi, c'est de loin le livre de Camus que je préfère, parce que, au fond, cette littérature philosophique, que soit La Peste ou L'Étranger, elle a quelque chose d'un peu pénible, c'est qu'elle est pesante, quand même. Le mélange des genres est toujours difficile. Voilà, dès qu'on met de la philosophie dans la fiction, c'est toujours un peu lourdeau. Voilà, même si c'est très bien fait, évidemment, c'est un grand écrivain, mais tandis que son livre autobiographique, son livre posthume, moi, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille vivement. C'est le premier homme, c'est vraiment un livre formidable, parce que ça, on comprend vraiment qui est Camus, et là, ça le rend incroyablement sympathique.
Luc Ferry, est-ce que on va sanctuariser l'IVG dans la Constitution aujourd'hui. C'est une autre question philosophique. Pour faire rentrer une conscience dans l'esprit des hommes, ou est-ce que la loi et le droit sont plus forts que la morale individuelle et les convictions qu'on peut porter, convictions humanistes?
Non, je pense pas. Je vais être très clair. Je suis à la même position que Larcher. Je suis à fond pour la loi Veil. Et Dieu sait, bon, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui en ont profité. Et Dieu sait que c'était vital pour elles. Donc, je suis à fond pour la loi Veil. Mais je pense que quand on veut inscrire ce type de loi dans la Constitution, alors qu'il n'y a absolument aucune opposition de la LFI à Marine Le Pen, personne ne s'oppose à la loi Veil. Donc, il n'y a véritablement aucun risque. Donc, le fantasme américain n'a absolument aucun sens. Je pense que ça signifie, sur le plan politique, quelque chose. C'est que quand on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, eh bien, on se rabat sur le sociétal consensuel plutôt que de faire une véritable politique, une action politique. Donc, c'est ça que ça veut dire pour moi. Donc, ça n'a en vérité qu'un sens politique. C'est, voilà, puisqu'on ne peut rien faire, puisqu'on ne peut pas agir en politique, si je puis dire, sérieuse, on va faire du sociétal consensuel et on va faire de la com. Et donc, je pense que c'est vraiment un grand coup de com, mais que ça sert strictement à rien. Personne n'est contre la loi Veil aujourd'hui. En France, en tout cas, politiquement, il y a évidemment un secteur de l'Église qui est contre, mais c'est pas sur le plan politique, il n'y a aucun risque.
Luc Ferry, merci. Je vous dis déjà à la semaine prochaine.
Avec joie.
On a parlé de cette société de surveillance généralisée qui germe quand il y a épidémie avec vidéosurveillance. Eh bien, figurez-vous que cette société de surveillance généralisée, c'est l'occasion d'écouter Dépêche Mode en concert à Paris aujourd'hui et demain, qui a été l'occasion de tester ce concert à l'Accor Hotel Arena. Pour la première fois, le dispositif de télésurveillance algorithmique qui sera utilisé pour les Jeux Olympiques. Dépêche Mode ici, accompagné par l'orchestre de la BBC. Try walking in my shoes. Try walking in my shoes. Stumble in my footsteps.